Brume 90.7, vous êtes dans le Confluence Cinéma du mercredi. Amaury Ballet n'est pas là malheureusement avec nous, donc cette émission sera chroniquée par nous deux, Raphaël Lorenzo et moi-même, Hakim Fdaouche. Donc c'est l'avant-dernier Confluence avant que nous faisions, avant de faire nos bagages pour partir cet été.
Hein.
Voilà, donc nous essaierons la semaine prochaine de vous faire un bon petit menu pour la dernière émission. Entre-temps, nous allons évoquer aujourd'hui même un film que Raphaël a vu, une comédie américaine qui s'appelle Trip Alliance, que tu as vu entre autres parce que l'une des actrices principales est la femme de ton grand metteur en scène chéri, Judah Pato. Hein.
Oui, mais ce n'est pas pour ça que je l'ai vu. Pour une fois, tiens, justement, je vais empiéter sur tes plates-boards. J'y suis allé pour deux raisons, les saints de Kate Upton. Et je le dis vraiment sans aucune.
Ah bon,
mais c'est vrai, je suis vraiment allé pour ça. Quoi.
Alors moi, dans la même partie, c'est-à-dire dans la première partie, j'évoquerai un film d'un autre temps, fin d'automne, un des derniers films réalisés par le grand metteur en scène japonais Ozu, un beau film en noir et blanc, en couleur justement restauré, qui passe à la Statue Lumière encore cette semaine. Dans une deuxième partie, on évoquera le film de la semaine qui est le dernier film de Clint Eastwood, hein, Jersey Boy, qui est un film qui nous a un petit peu divisé, on vous expliquera pourquoi. Et par la même occasion, dans la troisième partie, on évoquera du coup la carrière de Clint Eastwood, du moins les 10 derniers films qu'il a réalisés durant la décennie 2000-2010. Et je toucherai un petit mot sur sa relation qu'il a avec la musique, entre autres le jazz, le swing, et la musique en général, car Jersey Boy est un film musical, comme l'était déjà Bird dans les années 80. Alors Raphaël, bah écoute, je vais te laisser la liberté, même la joie et la liberté d'évoquer ce tout premier film de cette émission, hein, donc le Trip Alliance.
Triple Alliance.
Dont la bande-annonce circule beaucoup en ce moment, qui donne envie, ça a l'air d'être assez drôle, hein, une comédie féminine, faite pour les femmes.
Oui, c'est comme, ça que c'est vendu en tout cas. Avec un trio d'actrices, Cameron Diaz, Leslie Mann et Kate Upton, donc je veux dire presque aux trois générations différentes. Et c'est un film surtout réalisé par Nick Cassavetes, qui est le fils de Gena Roland et évidemment de l'immense John Cassavetes. Hein. Mm. C'est un cinéaste assez, atypique, puisqu'il n'a pas vraiment de fil conducteur dans sa filmographie. Il a fait autant des mélodrames comme Reviens-moi, ou des films un peu teen movie polar comme Alpha Dog. Je ne sais pas si tu l'avais vu celui-là avec Tim Burlake et Bruce Willis, entre autres. C'était pas un mauvais film d'ailleurs. Et là, il nous revient avec une pure comédie américaine. Alors, la comédie américaine, vous le savez, se porte très bien ces temps-ci.
Et c'est ton dada.
Oui, évidemment. Donc, c'est aussi pour ça que je suis allé voir le film. Hein. Et on retrouve effectivement, comme l'a dit très bien Hakim, Leslie Mann, la compagne de Judah Pato à l'écran et à la ville. Hein, sa femme de toujours, évidemment, dans une nouvelle comédie, mais cette fois sans lui. Hein. Le film retrace l'histoire d'une avocate assez indépendante, assez forte, assez culottée, interprétée par Cameron Diaz, qui vit une histoire d'amour assez palpitante avec un beau gosse, avec un homme de son âge. Elle est vraiment épanouie. Elle va découvrir malheureusement, lors d'un quiproquo, hein, qu'il est marié, qu'il a une double vie et qu'il est en fait marié avec Leslie Mann. Les deux femmes vont se rencontrer et elles vont très très vite devenir amies. En fait, une drôle d'amitié va naître entre les deux femmes et elles vont décider finalement de faire payer cette mascarade, faire payer cette humiliation à leur conjoint commun en l'humiliant de toutes les manières possibles avant qu'une troisième femme arrive, donc jouée par Kate Upton. D'ailleurs, le titre grille tout de suite cet aspect-là du film, puisqu'il s'appelle Triple Alliance, alors que le titre américain, c'est The Other Woman. Hein.
Oui, mais quand tu vois la bande-annonce, tu comprends très rapidement qu'ils sont à trois.
En plus, la bande-annonce...
Ils sont à trois pour justement préparer leur revanche.
Alors que dans le film, voilà, Kate Upton intervient au bout de facile trois quarts d'heure de film. Quoi, parce que le film, c'est quand même pas mal long, hein. C'est une tendance de la comédie américaine depuis Apatow, les comédies sont très longues généralement.
Ah, Apatow, Funny People durait 2h20.
Ouais, c'est vraiment le plus long là pour le coup, c'est un peu une exception on va dire, mais là il dure quand même 1h50, ce qui est quand même pour un film assez grand public assez rare. Et moi, pour le coup, c'est un film qui ne m'a pas fait beaucoup rire, puisque le film repose beaucoup sur les clichés que représentent en fait les diverses actrices. Cameron Diaz joue vachement sur son cliché célibataire, un peu battante, un petit peu indépendante, un petit peu aussi masculine. Hein. C'est l'un de ses traits de jeu à Cameron Diaz. Leslie Mann incarne vraiment dans l'écran la femme névrosée qu'on rencontre dans les films d'Apatow, donc qu'on rencontrait dans Knotop ou The Sims 40, donc elle fait le même type de rôle, et Kate Upton est là pour ses seins. Mais vraiment, dans tous les films qu'elle a fait, elle joue pour ses seins. Hein,
et son odeur, hein, qui est la sueur. Hein.
Oui, oui, ça
excite la bande-annonce.
C'est l'un des rares moments assez drôles du film. Et du coup, de ces clichés-là actoraux, on va dire, le film repose un peu sur ses lauriers. On sent que les actrices aimeraient beaucoup jouer de leur image, comme par exemple les stars de C'est la fin, hein, de Jonah Hill à Seth Rogen ou James Franco, qui jouaient vraiment avec leur image à décaler d'autres personnages à partir de ça. Mais là, il n'y a pas de recul nécessaire, on va dire. Et ça devient très vite caricatural. On a vu ça des millions de fois. Et ça tombe malheureusement dans la facilité, dans le scabreux, quoi. On voit un plan numérique où le chien de Liz Sliman défèque sur le plancher. Voilà, c'est des gags un peu faciles, on va dire.
Et c'est très tendance en ce moment, parce qu'il y a eu Cronenberg, ouais, il y a eu Godard. C'est un peu la tendance en ce moment de filmer des gens en train de déféquer sur des chiottes. Ou
là, dans la nature. Là, c'est un chien, mais...
Ah, c'est un chien, d'accord.
Mais là, quel est l'intérêt, quoi ? C'est juste ça, quoi. Moi, je pense que la comédie ne doit pas simplement faire rire, elle doit aussi évoquer quelque chose, parler de quelque chose, faire réfléchir. Donc là, on sent quand même qu'il y a quand même une volonté de faire une comédie au féminin. Mais encore une fois, ça arrive après la bataille et ça arrive après Apatow. Apatow, on pense qu'on veut de lui, mais il a réussi très très vite à démocratiser l'humour avec les femmes en produisant Lena Dunham, qui a fait la série Girls, qui est une série magnifique et qui parle magnifiquement bien des femmes, ou bien la comédie avec Kristen Wiig, Mes meilleurs amis. Et on sent que ça va vers ça et ça ne marche jamais pour les raisons que j'ai évoquées. Et du coup, moi, j'attends vraiment le prochain film d'Apatow, là, Train Work. D'ailleurs, certains commencent déjà à l'annoncer au Festival de Cannes 2015. Si c'est le cas, je serais complètement fou. Ça commence à aller.
Mais qui balance ça, franchement ? Qui balance ça ?
Il y a plusieurs rumeurs.
Qui ?
Il faut aller sur Twitter.
Ouais. Non, mais tu connais un petit peu comment fonctionne le Festival de Cannes. Là, le grand patron de Festival de Cannes, Thierry Frémaux, est en plein dans le Festival Lumière. Donc, je pense qu'il a autre chose à penser que le Festival de Cannes 2015.
Il n'y aura plus que lui en 2015.
Oui. Mais qui balance ça ? Fais attention à ce que tu tombes dans le piège des informations.
ZZ Forti était à deux doigts à l'époque d'entrer en compétition à Cannes il y a 2 ans.
Et pourquoi il n'est pas passé ?
Ah bah ça, il faudra demander à Thierry Frémaux, mais en tout cas, Frémaux avait adoré le film, c'est ce qu'il avait dit, mais il n'a pas expliqué pourquoi. Enfin bon, passons. Et son nouveau film, Train Work, mettra en scène une femme, cette fois-ci, dans le rôle principal, écrit par une femme. Donc j'attends plus peut-être d'un film réalisé par un homme pour évoquer correctement le féminisme et le rapport homme-femme.
Très bien. Ah bah ça me permet de faire une transition un peu avec le film que je vais évoquer maintenant. Vous le savez peut-être, l'Institut Lumière suit la rétrospective qui a eu lieu à la Cinémathèque française sur le cinéaste japonais Yasujirō Ozu. Rétrospective qui suit en parallèle la sortie du coffret Ozu de chez Carlotta que j'évoquerai la semaine prochaine, je vous le promets. Ça fait longtemps que je le dis, mais il y a beaucoup de DVD, il me faut du temps pour tous les voir, donc je vous promets que pour la semaine prochaine, pour la dernière émission, je vous ferai un retour sur ce très beau coffret. En attendant, si vous voulez découvrir ses œuvres sur grand écran, allez à l'Institut Lumière, il reste encore une ou deux semaines avant que la programmation Ozu s'arrête. Alors le film que je vais vous conseiller, c'est Fin d'automne, qui repasse pour la dernière fois samedi. Ce samedi à... Je ne sais pas, ce n'est pas indiqué sur mon papier, je vous dirai ça tout à l'heure. C'est son troisième avant-dernier film. Bref, il fera deux autres films après celui-ci. Il faut savoir que Ozu est né en 1903 et est mort en 1903, le même jour. Donc en fait, il est mort le jour de son anniversaire. Et c'est une personne qui va traiter de la famille dans la plupart de ses œuvres, va utiliser le cadre de la famille pour décortiquer les problèmes de mœurs, les problèmes de société, la déchirure que peut subir certaines familles quand ils laissent partir leurs enfants à la ville ou quand ils voient ses enfants... passer d'un autre mode de vie à un autre. Ozu parle souvent de la façon, évoque souvent la façon dont les Japonais ont de rester traditionnels chez eux, mais de s'émanciper, de s'ouvrir à un autre mode de vie quand ils vont travailler à la ville. Par exemple, on voit très bien ce qui est très propre à la mentalité japonaise. Les Japonais ont souvent pour habitude de s'habiller en smoking, en tailleur aller au travail. Et le soir, quand ils rentrent, ils se mettent à genoux et ils abordent leur kimono. Donc voilà. Et grâce au prisme de la famille, Ozu arrive à parler de la vie japonaise, des mœurs japonaises. Et dans Fin d'automne, il parle d'une chose qui est un peu récurrente dans une bonne partie de ses œuvres, c'est le mariage. L'histoire raconte celle de trois amis d'enfance d'un certain âge qui vont à la cérémonie d'un de leurs amis qui est déjà mort, mais c'est une cérémonie de mémoire, hein, qui fête le nouvel anniversaire de la mort de leur ami. Et suite à cette cérémonie, hein, les trois amis vont se retrouver au bord d'une table de saké. Le saké est souvent présent chez Ozu. Ozu adorait le saké. D'ailleurs, son dernier film s'appellera Le goût du saké. Et ces trois amis vont avoir l'idée de trouver un mari pour la petite fille de leur la fille de leur ami qui a 24 ans. Et par la même occasion, ils vont essayer de trouver une femme, un mari à sa femme qui est veuve depuis. Et c'est une comédie assez drôle, assez loufoque. Et c'est vraiment un film que je conseille, surtout que le film est projeté dans une très belle copie restaurée. Ozu a mis beaucoup de temps à tourner en noir et en couleur. La plupart de ses films, on va dire trois quarts de ses films ont été tournés en noir et blanc. Et si je ne me trompe pas, je crois que les cinq ou les six derniers films de sa carrière vont être tournés en couleur. Et on a longtemps cru que Ozu serait réticent à l'utilisation de la couleur, comme Chaplin ou comme Buster Keaton ont été réticents à l'utilisation du son. Et en fait, on s'est rencontré rapidement qu'il a su dompter ce nouvel langage cinématographique, on peut appeler ça langage, pour l'utiliser dans ses films. Et pour ceux qui ne le savent pas, donc je ne vais pas non plus trop parler sur Ozu, car je laisserai Pascal X Vincent, que j'ai interviewé à Cannes, en parler la semaine prochaine dans notre prochaine émission. Mais ce qui caractérise Ozu, c'est donc le thème de la famille, la société japonaise à travers le prisme de la famille, mais surtout c'est ses fameux plans, sa fameuse mise en scène, sa fameuse patte qui est très qui peut être remarquée très rapidement. C'est ses fameux plans au ras du sol ou au ras des tables, sa caméra qu'il va mettre sur un trépied qu'on va appeler les pattes de crabe. Donc c'est un trépied assez étrange, avec des longueurs de tiges assez spécifiques, et du coup ça va lui permettre d'opter pour, avec bien sûr un travail de profondeur de champ et de cadre, ça va lui permettre d'obtenir ces fameux plans frontaux quand il filme deux personnes en train de discuter. Moi, petite personne, j'aime beaucoup le cinéma d'Ozu, mais j'ai un petit peu du mal avec cette technique qui consiste à filmer deux personnes qui parlent en champ contre champ, mais en les filmant face à face. Je trouve que ça fait un petit peu amateur. Alors, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est un truc qui me gêne
Tarantino
un petit peu.
Tarantino l'a fait dans Kill Bill. Ah oui, avec Uma Thurman et...
Ah bon, à quel moment?
Et Lucy Liu, à la fin du film.
Oui, c'est vrai.
Avant le combat final.
Oui, c'est vrai. Sauf que là, quand tu vois les films d'Ozu, c'est vraiment ça. C'est, à la limite, tu te dis, mais en fait, il fait exactement le même film à chaque fois, avec un sujet un peu différent. Mais à chaque fois, c'est vraiment les mêmes cadrages.
C'est la marque
des personnes
grands,
qu'on filme en face à face. C'est la personne qui ne fixe pas la caméra droit, mais qui fixe son partenaire à un point extérieur.
Oui, genre donc, Michael Mann aussi, qui informe ses personnages sur le côté de l'écran, voilà. Par exemple.
Mais ça fait partie du monde de ces grands auteurs qu'on arrive à reconnaître, voilà, à travers une patte, un plan.
Un style.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller à l'Institut Lumière, surtout qu'il y a peut-être beaucoup parlent de Voyage à Tokyo ou du Goût du Saké comme ses chefs-d'œuvre. Moi, je dirais également Bonjour, un film sur des gosses, car il aime beaucoup parler de la jeunesse, des petits gamins. Et Bonjour passe ce week-end et mardi prochain à l'Institut Lumière. Ça sera ce samedi 21 juin à 16h15 à l'Institut Lumière. On fait une petite pause musicale et ensuite, nous allons évoquer le tout dernier film de Clint Eastwood.
Thank you. Loneliness is something you're accustomed to. When you're all alone and on your own, looking for a way to take you home. When you close your eyes and drift away, nothing we can do to make you stay. I don't care how it happened, always have time for an old friend. I just have to know you're coming back again.
Confluence, l'entretien.
Vous êtes toujours sur Brume 90.7, dans le Confluence spécial cinéma du mercredi. Alors maintenant, nous allons évoquer le nouveau film de Clint Eastwood, qui cette fois-ci a mis un peu de temps avant de sortir un nouveau film. Il faut savoir que dans les années 2000-2010, il avait un ratio assez important, un film tous les deux ans, voire chaque année.
Ouais, ouais.
Très souvent, il venait
la Woody Allen.
Voilà, très souvent, il venait faire la promotion de ses films au même moment qu'il tournait son film suivant. Et là, environ 3 ans séparent J. Edgar et ce film, Jersey Boy. Il faut savoir que Eastwood a tourné dans un autre film en tant qu'acteur, un film que je n'ai pas vu. Alors qu'il avait
une nouvelle chance qui n'était pas terrible.
Alors qu'il avait pourtant dit, on l'avait un petit peu compris à la fin de Grand Torino, qu'il mettait une carrière. Une fin à sa carrière de comédien.
Là, c'était pour aider son producteur Robert Lawrence qui passait à la
D'accord,
mise en scène,
okay.
Donc c'était un peu un service, on va dire.
Et juste après J. Edgar, qui moi, personnellement, est un film que j'aime bien, c'est un film qui porte un peu à polémique, qui divise un petit peu les cinéphiles, les critiques. Moi, c'est un film que j'apprécie pour ma part. Et juste après ça, il était question qu'il fasse un nouveau remake d'Une étoile est née, qui a déjà eu une version dans les années 30. Et. Qui a une version 54 très connue, réalisée par George Cukor. Et donc, du coup, ce film-là, qui était adapté de la grande pièce à succès de Broadway, devait être interprété par Rihanna et par
Beyoncé.
Par Beyoncé, je comprends toujours. Beyoncé et Tom Cruise.
Et Tom Cruise, il devait faire une sorte de Kurt Cobain, apparemment.
Voilà. Et Beyoncé est tombée enceinte. Et donc, du coup, ça a un peu décalé les emplois du temps. Et du coup, le projet est temporairement tombé à l'eau. Je dis temporairement parce que d'après les dernières nouvelles, apparemment, il ne veut pas lâcher le projet, il va le faire, quoi qu'il arrive.
Après, il faut régler les agendas aussi de chacun, de Clint Eastwood, de Beyoncé.
Et finalement, il s'est retrouvé avec un autre projet, une autre comédie musicale sous la main. Ce projet, c'est...
Un musical, pas exactement une comédie musicale.
Ouais, c'est Jersey Boy, un film sur le groupe des Four Seasons, un groupe que pour ma part, je ne connaissais pas. Mais quand on regarde le film, quand on écoute leurs différentes musiques, leur ton de voix assez spécial, on se compte finalement que c'est des musiques qu'on connaît un petit peu, qui sont peut-être plus connues que les auteurs qui les interprètent.
Et qui ont été beaucoup reprises aussi.
Oui.
La suite.
Alors, racontez-nous un peu l'histoire qui est finalement très, très simple. Basique,
C'est... En une ligne, on pourrait le dire, c'est l'histoire de 4 garçons qui vivent proche de New
dans
York.
Le vent.
Oui, dans le vent. Ouais. Bah oui, là, on n'est pas loin des Beatles.
Le film commence en 52.
Voilà, et on est dans les années 50. On commence donc proche de Newark, donc dans New Jersey. D'ailleurs, c'est pas très loin de Les Sopranos. J'y reviendrai après.
Allez, chers auditeurs, Raphaël a surkiffé car c'est plus un film scorsésien qu'Eastwood.
Oui, mais après, j'y reviendrai aussi, mais pas que. Et donc, 4 jeunes hommes liés plus ou moins à la mafia, des petites frappes, on pourrait dire, qui adorent la musique, qui sont passionnés par ça et qui vont former un groupe de jeunes gens, et on va voir leur déboire, leur réussite, jusqu'à le succès aux États-Unis, jusqu'à évidemment leur déchirure, leur séparation, comme n'importe quel groupe. On pourrait dire finalement c'est l'ascension et la chute d'un groupe dans les années 50-60.
Sauf que là, contrairement à là, c'est original, pour une fois, c'est pas un groupe qui va connaître une chute, une descente aux enfers, qui va se déchirer
à cause
de la drogue et de ça. Bon, il y a toujours un clampin dans les quatre qui va avoir des problèmes de cœur, qui va voir sa carrière prendre le pas sur sa vie de famille, ce qui va être le cas d'un des protagonistes qui est, on va dire, celui sur lequel le film passe plus de temps.
Il y a plusieurs points de vue quand même, selon les temps quand même.
Oui.
Et c'est surtout entre les deux leaders que ça joue un peu, ouais, à la Keith Richards et Mick Jagger.
Et finalement, c'est juste une question de thune. Hein. Parmi les quatre, il y en a un qui est, voilà, qui est peut-être plus une frappe que les autres. Et qui,
l'italien pur jus.
Pur jus, voilà. Et qui va essuyer beaucoup de dettes. Et ces dettes-là vont ruiner ce groupe qui, pourtant, en partant de rien, avait réussi à atteindre des sommets, à devenir les chanteurs populaires de l'Amérique des années 60, à l'instar des Beatles, ouais, en Angleterre. Et puis voilà. Et.
C'est là où c'est aussi Eastwood, dans la terme d'Eastwood, enfin Eastwood c'est pas un metteur en scène de l'épate, n'importe quel cinéaste aurait justement tombé dans les clichés de la drogue, le côté corporel, etc.
Je pense que en fait c'est pas le,
il tombe pas là-dedans.
Oui, mais je pense que alors moi il faudra peut-être faire d'après les rapides recherches que j'ai fait avant l'émission sur le groupe, je pense pas que c'est un groupe qui était mouillé à la drogue ou alors très furtivement, c'est pas quelque chose qui a vraiment démoli leur carrière, tu vois, comme ce fut le cas pour Johnny Cash, bien que Johnny Cash lui avait une carrière solo.
Enfin, disons solo. Que c'est, enfin, au fond, c'est pas ça qui intéresse Eastwood, ce que je veux dire. Mm. Et comme toujours chez Eastwood, il y a un certain recul, un certain respect avec son sujet, quoi. Mm. C'est très à l'ancienne, ouais. Voilà ce que je veux dire, quoi.
Alors moi, j'ai pas vraiment apprécié. Déjà, le film, en regardant la bande-annonce, je me suis dit, s'il n'y a pas marqué Clint Eastwood, je suis incapable de dire que c'est un film de Clint Eastwood. C'est vrai que depuis quelques temps, Clint Eastwood avait, et là on en reparlera dans la troisième partie, avait réussi à imposer sa patte d'artiste, de réalisateur et d'auteur. Moi, je considère que Eastwood est un auteur au même titre que Spielberg, au même titre que Hitchcock, que Kubrick, que Tarantino,
entièrement,
que Scorsese. Et par conséquent, moi, en tant que cinéphile et critique, mais plus cinéphile, je juge un film de Eastwood par rapport aux autres en tant que film d'Eastwood, pas parce que même si ce n'est pas des films du même genre, je me permets de les juger là-dessus. Et je suis désolé, ce film-là, pour moi, restera mineur par rapport à des œuvres comme Gran Torino, par rapport au diptyque Mémoire de nos pères, Ledo Ojima, par rapport à l'échange. Pourquoi ? Parce que ce sont des œuvres beaucoup plus fortes, beaucoup plus complexes, faites par une personne qui, dans la vraie vie, hein, représente des idées à l'opposé de ce qu'il raconte au cinéma. C'est ça qui me fascine souvent chez Eastwood, hein. C'est vraiment cette,
oui, très ambigu, hein.
cette personnalité un peu ambiguë qui n'est pas aussi ambiguë qu'un Friedkin ou qu'un James Ellroy, attention, hein. On sait très bien que Eastwood, on ne va pas revenir là-dessus, est un grand républicain qui est maire de Carmel aux États-Unis.
Il n'est plus.
Voilà, et moi, ce que j'aime dans le cinéma de Eastwood, du moins dans ses derniers films, c'est voilà, cette personne, Clint Eastwood, une personne de plus de 80 ans qui, encore il y a 2 ans, allait dialoguer devant une chaise vide, censé représenter le bilan de Obama, où carrément il l'insulte.
C'était quand même, voilà, assez ridicule.
Ridicule, vraiment, ça faisait mal au cœur.
Et d'autant plus qu'à la même époque, il faisait une télé-réalité.
Ah ouais,
il a une télé-réalité avec sa femme depuis, s'est séparé. Mmh. Donc là, je pense qu'il est sur des bons chemins, moi.
Donc voilà, cette personne-là, très à droite, très réac, mais qui a pour très bon ami Morgan Freeman, qui fait des films sur, justement, un film comme Victus, donc on pourrait aussi sur Victus, c'est peut-être Nelson Mandela au pays des bisounours, mais c'est quand même un réac de droite qui fait un film sur un noir qui va se faire emprisonner pendant 25 ans et qui va sortir et qui va tendre la main aux gens qui l'ont condamné, qui l'ont puni, et qui va tendre la main à l'apartheid. C'est un type qui fait un film qui s'appelle Gran Torino, qui interprète un ancien militaire de l'armée qui avait combattu en Corée, qui déteste les Asiatiques et qui finalement va se remettre en question. Il ne va plus devenir raciste, mais au contraire, va s'allier avec eux. C'est un gars qui raconte le combat d'Iwo Jima d'un point de vue des Américains, mais également d'un point de vue des Japonais, sans faire un film manichéen. Et je trouve ça fascinant. Et l'échange, c'est quand même assez extraordinaire.
L'échange, justement, c'est comme lui qui a soutenu la guerre d'Irak et compte, oui, finalement le côté militariste. C'est une métaphore pour, voilà, dire, exactement, les soldats qui partent au combat et qui reviennent complètement, voilà, différents.
Et excuse-moi, mais quand ensuite tu vois Jersey Boy, je suis désolé, c'est franchement moins bien. Et puis bon, il y a aussi les acteurs. Alors il a pris ce parti pris qui est respectable, il aurait dû le faire, de prendre que des acteurs non connus. Alors toi, tu vas me dire non, parce que tu l'as tous vu dans des séries, mais tout le monde ne regarde pas autant de séries que toi, et moi je ne les ai pas vues. Mais je trouve que ces acteurs, ils arrivent après Matt Damon, après Leonardo DiCaprio, après, j'ai oublié de parler de Mystic River, ils passent après Sean Penn, Tim Robbins, tous ces grands acteurs charismatiques, tous extraordinaires, tous géniaux qui sont, et ils ne font pas le poids face à eux. Et donc du coup, je le redis une fois, je suis devant un Eastwood mineur qu'on oubliera très rapidement quand on évoquera, j'espère, très très tard, hein, lors du décès de Clint Eastwood, quand on évoquera sa carrière, je pense qu'on l'aura oublié. Je pense que c'est un projet par défaut. Il voulait faire son film avec Beyoncé et Tom Cruise, Une étoile est née. Et voilà, il a voulu s'essayer à la comédie musicale. Il a tourné une séquence de fin assez originale. Je trouve très réussi ce générique en comédie musicale.
Où Christopher Walken danse.
Voilà, et ben y a Christopher Walken. Mais voilà, c'est la seule icône qu'il y a dans le film et on le voit très peu. Il est mis en retrait par rapport aux autres protagonistes. D'ailleurs, le scénario veut ça, hein. Il est en retrait, c'est un second rôle. Mais voilà, je suis vraiment sur ma faim. C'est pas un mauvais Clint Eastwood, mais moi, je n'ai pas peur de dire du mal, du négatif dans des films faits par des, sur des films faits par des auteurs que j'aime beaucoup.
Alors moi, je vais dire du bien, justement, parce que oui. Eastwood, malgré dans l'imaginaire, le côté western, le côté politique, le côté aussi polar, ce qui est très, très flagrant dans sa filmographie, c'est aussi un cinéaste plus surprenant qui va vers des terrains à chaque fois différents. Voilà, au-delà, c'est un film, je l'ai pas vu, mais c'est un film qui va complètement à l'encontre de ce qu'on pourrait imaginer de l'imagerie que véhicule Clint Eastwood.
Alors, deux secondes, hein. Moi, j'ai pas beaucoup aimé ce film, mais c'est un film qui parle de la mort, du deuil, d'un peu de spiritualité. Donc voilà, on se prépare à la mort, à l'au-delà. Et c'est réalisé par un metteur en scène qui a 82 ans, qui est proche de la mort.
Ça, oui.
Donc même si c'est pas un film que je comprends. Mais je trouve pas ça super. Hein.
Par rapport au genre, je parle, attention.
Oui. Et non, c'est pas tellement fantastique, hein, je peux te dire. Hein.
Les expériences de mort imminente, on frôle le fantastique quand même.
Bah, regarde le film. Hein. Ou alors c'est du fantastique soft, hein, ça dépend ce que tu attends comme fantastique.
Ce que j'appelle la mort imminente, voilà. Tu t'en renseigneras là-dessus, c'est quand même assez proche d'une idée fantastique ou du moins religieuse. Donc après, on peut l'interpréter comme on veut. Mais voilà, il va vers des histoires d'amour aussi parfois. Voilà, on l'imagine sur la rue de Madison ou Un monde parfait. Des histoires un petit peu qu'on oublie comme ça par-ci par-là, mais qui font aussi le sel de Clint Eastwood. Et je trouve que son dernier film, Jersey Boy, est complètement dans cette veine-là. Il s'essaye à autre chose, comme les grands cinéastes s'en sont essayés à autre chose. Par exemple, on va dire John Carpenter sur Starman. C'est un film complètement différent, mais on retrouve du Carpenter. Et ben là, c'est un peu la même chose. On retrouve voilà, ce côté union, ce côté lien affectif entre des individus. Donc là, c'est une histoire d'amour, on pourrait dire, entre quatre individus qui vont s'aimer, puis se détester, puis se retrouver. En ça, évidemment, ça rappelle aussi le cinéma de Martin Scorsese, le côté ascension et chute, d'autant plus qu'on a le côté voix off, le côté mafia, le côté jeune garçon des rues, le côté musical.
La voix off, il la détourne en, justement en cassant le quatrième mur et où les acteurs s'adressent à la caméra.
Comme dans Les Affranchis.
Oui, je me demandais ça. Ils font Les Affranchis.
Oui, alors, du coup, c'est plus une voix off. Ou même le Loup de Wall Street, dernièrement.
Donc, du coup, c'est plus une voix off.
Oui, effectivement.
C'est une voix off qui est un peu détournée, ça c'est intelligent.
Et ça, du coup, moi ça m'a surpris aussi, et du coup plus que Eastwood à son âge, un metteur en scène, un auteur, comme tu l'as très bien dit, qui a ses récurrences, qui est un auteur classique, le dernier classique peut-être avec Carpenter et Spielberg, arrive à moderniser son propos à travers voilà, ses apartés des acteurs, à travers aussi au milieu du film une autre temporalité. Un flashback qui revient sur ses pattes au bout d'un moment, et du coup ça m'a plu, et qu'on retrouve aussi ce côté temps qui passe, le côté aussi deuil d'une époque, qu'on retrouve dans tous ses derniers films. Ça devient de plus en plus crépusculaire, même si le Jersey Boy est un film beaucoup plus lumineux, dans le sens où il est beaucoup plus drôle, beaucoup plus frais presque, il y a beaucoup de moments assez comiques.
Bon, ça se termine bien surtout.
Oui, certes, mais la fin, c'est simplement le temps qui passe. C'est ça la fin.
Oui, mais au final, c'est l'amitié qui se réconcilie. Hein.
Aussi, non, mais, oui, mais c'est surtout la fin d'une époque. On a tous passé à autre chose, mais tout ce qui nous reste, au fond, c'est qu'on s'aime, au fond. Et ça, c'est Eastwoodien. Et du coup, moi, je trouve ça vraiment d'une fraîcheur. Je trouve ça osé. Je trouve que le casting est vraiment formidable, contrairement à toi. Je trouve que les jeunes acteurs, c'est vraiment une découverte pour certains. Et ça fait vraiment plaisir de voir des acteurs issus, pour moi, du monde un peu scorsésien, du monde un peu des Sopranos, de Boardwalk Empire. Et je pense que Eastwood et Scorsese ont pas mal en commun, sachant qu'ils ont produit ensemble, mais t'en parlera, une série sur le blues. Il a réalisé d'ailleurs le film sur Ray Charles, si je ne m'abuse.
Oui.
Donc voilà, je trouve que c'est une franche réussite.
Mais c'est d'ailleurs ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il fait du Scorsese, alors que ce qu'on attend de Eastwood, c'est qu'il fasse un film de Clint Eastwood. J'adore Hitchcock, il aurait mis Hitchcock dans un plan, c'est pas pour autant que je trouvais ça bien. C'est
mais
pas
par exemple,
le jour où il fera du Tarantino, je dirais, bah ouais, mais bon, tu fais du Tarantino.
Mais oui, mais Invictus, c'était Spielbergien, tout comme Iwo Jima et Mémoire de nos pères. C'était des films Spielbergien et produits par Spielberg en plus. Si. Dans le rapport à la frustration au spectateur, on était vraiment dedans. Et voilà, Eastwood, moi je trouve qu'il est surprenant, et c'est tant mieux, avec 84 ans, il a encore les couilles et l'envie de faire des choses comme ça. Quoi.
Tu dis par le Spielberg, c'est vrai que c'est le prochain film qu'il réalise, là, qu'il est en train de
réaliser. Voilà, ils sont récupérés.
C'était un projet de Spielberg. Voilà.
American Sniper avec.
Ça me donne envie. Déjà, je sens que ça va être bon. Ça.
Plus militariste, là, pour le coup. Ouais. Moins dans la veine, on va dire, affective, mais plus dans la veine de genre militariste.
Voilà. Et donc, du coup, à vous de vous faire un avis sur ce nouveau film de Clint Eastwood.
Faut toujours aller voir Eastwood, de toute façon.
Ah, toujours.
C'est comme les Coen, quand c'est mineur, même quand c'est mineur, faut quand même y aller.
Oui, mais il faut être ludique.
Pour moi, c'est une franche réussite. Donc, moi, je vous le dis.
Pas pour moi, mais bon. Une petite pause musicale et ensuite, on revient sur la carrière de Eastwood des années 2000-2010. We'll be right back.
L'entretien.
Vous êtes toujours dans le Confluent spécial cinéma du mercredi. Raphaël Lorenzo et moi-même, Hakim Daouche, nous allons vous parler de Clint Eastwood, du moins des derniers films qu'il a fait à partir des années 2000. Moi, je pense que le film charnière, c'est Mystic River en 2003. Et à partir de 2003, il va enchaîner 5 films, 5 chefs-d'œuvre. Donc d'ailleurs, j'ai oublié d'évoquer Million Dollar Baby. Donc Mystic River, Million Dollar Baby, le diptyque Mémoire de nos pères, L'aide d'Iwojima, Grand Torino, L'échange.
Edgar, Invictus.
Non mais je trouve que déjà Invictus, j'aime bien, mais ça baisse un petit peu de rythme. On est tous d'accord là-dessus. Au-delà, ça baisse une nouvelle fois. Edgar, ça va un petit peu mieux. Pour moi, vraiment, sa part de Mystic River à Grand Torino, il a fait que des chefs-d'œuvre. Et c'est vraiment un ratio assez incroyable quand tu sais que bah, le type, il a fait ces films-là à plus de 70 ans, à une époque où justement on parle de classicisme, tous ces réalisateurs du classicisme, donc les John Huston, les Hitchcock, qui à une période de leur vie étaient dans des états lamentables.
Le film de trop.
Oui, voilà. Et puis bon, John Huston a tourné son dernier film dans une chaise roulante. Ouais, ouais. Hitchcock, à la fin de sa vie, bon, avait un physique et une santé pas super, mais bon.
C'est un art de jeune, on dit, le cinéma.
Et en plus de ça, il y a des metteurs en scène qui sont arrivés à une époque où il y a eu le nouvel Hollywood, où le cinéma va changer, où le cinéma studio va se casser la gueule. Et du coup, ces metteurs en scène-là vont avoir du mal à se faire une place au milieu des Brian De Palma, des Clint Eastwood, des Spielberg.
C'est un peu
des
comme Carpenter, Pacquenpa. C'est un loup solitaire, Eastwood. Hein. Voilà. Il est parallèle à tout ce mouvement.
Et Clint Eastwood, c'est un peu l'inverse. Alors Clint Eastwood, il est né en 1930 et durant sa jeunesse, il va connaître la Grande Dépression qui va beaucoup... Il est né à San Francisco, une ville qu'il va... qui va être le cadre de la plupart de ses films. Il y vit toujours. Hein. Enfin, il a été, tu l'as dit tout à l'heure, pendant quelques années, maire de Carmel, une ville qui se trouve à une heure de route au sud de San Francisco. Donc, c'est une superbe ville. Il va s'essayer au cinéma. Il va, pendant des années, jouer dans une série télé.
Qu'on voit dans Jersey Boys et Rawhide.
Voilà. Donc, heureusement qu'il y a ce petit caméo de Clint Eastwood, ce qui nous permet de... Pour ceux qui n'avaient pas compris, comme moi, que c'était un film de Clint Eastwood, parce que sans ce film-là, sans cet extrait-là, on a un peu du mal à reconnaître la patte de Eastwood. Et donc, du coup, le titre de cette série, c'était Rawhide. Et juste avant ça, il a fait quelques petites apparitions qu'on ne va peut-être pas remarquer d'un premier coup d'œil, parce que ouais, c'est des petites apparitions. Il fait une petite apparition dans Tarantula. On voit justement un gros plan sur ses yeux avant, donc là, le premier gros plan sur ses yeux avant ceux de Sergio Leone, où il joue le rôle d'un pilote d'avion. Et il joue également un scientifique dans, je crois, la suite du Monstre du Lac Noir.
Ah, d'accord.
Dans la suite, je crois que c'est dans le deuxième épisode. Mais voilà, c'est un Italien, c'est Sergio Leone qui va le faire connaître aux yeux du grand public grâce à la fameuse trilogie des dollars. Et très rapidement, en observant Sergio Leone et en observant un autre metteur en scène qui va jouer un rôle très important dans sa vie, Don Siegel, il va faire le premier pas en 71 avec un frisson dans la nuit.
Ouais, sur la radio d'ailleurs.
Voilà, et dont le titre original est Play Misty for Me. Et là, on parle déjà de musique. Et il faut savoir que la musique va faire partie de la vie de Clint Eastwood dès son plus jeune âge. Sa grande passion, ça va être le jazz. C'est une musique qu'il va écouter en boucle et en boucle, surtout que quand il travaillait en tant que bûcheron dans l'Oregon, il écoutait le jazz à la radio pendant des nuits et des nuits. Il va bien entendu découvrir d'autres musiques comme le swing ou le rock. Il va d'ailleurs très rapidement jouer du jazz et il jouera du bugle. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est comme instrument. J'ai juste vu qu'il s'était mis au bugle.
C'est un jeu de société.
En tout cas, la musique va faire partie un peu de son œuvre. Il est d'ailleurs chanteur. Il va faire beaucoup de musique, beaucoup de chants. Il
compose
d'ailleurs
ses films lui-même.
Anticonkman, où il va jouer le rôle d'un chanteur. Il va faire Bird, vraiment sur le fameux pianiste Jazzman Parker, interprété par Forest Whitaker, qui à l'époque avait 26 ans. Donc là, voilà, il joue la carte de la jeunesse également, parce qu'avant ça, Whitaker, il faisait une apparition dans Platoon, mais il n'était pas encore l'acteur connu, par exemple. Et voilà. Et c'est une chose que je ne savais pas. Il va faire partie. C'est grâce à lui que le film de Bertrand Tavernier autour de minuit, hein, qui parle de jazz. D'ailleurs, il y a Martin Scorsese qui fait une apparition dans le film. C'est grâce à lui que le film va pouvoir être exporté aux États-Unis, car il va faire le forcing auprès de la Fox et de la Warner. Je crois que c'est plus de la Warner parce qu'il a toujours travaillé avec la Warner.
La Warner, oui.
Il va faire le forcing pour que le film puisse être distribué. Donc voilà, le jazz, la musique, en partie le jazz, va faire partie prenante de sa carrière. On retrouvera d'ailleurs du jazz dans Bird, mais également dans l'épreuve de force ou même dans la corde raide. Hein. C'est vraiment un style musical qui va se coller à l'image de Eastwood pendant de longues années, avant qu'une autre figure et un autre style de musique prennent le pas, c'est le piano. Et c'est Cal Eastwood qui, justement, pour ces films qu'on va traiter, donc Mystic River à Edgar, et pas justement sur Jersey Boy. Hein.
Mais c'est un peu différent parce que c'est des musiques.
Voilà, c'est cette
groupe.
Musique au piano avec Clint Eastwood qui chante ou des fois Kyle.
Très simple.
Très simple.
Quelques notes et qui sont très très dans l'émotion, quoi, toujours.
Bah, c'est un peu la marque de fabrique de Gran Torino. C'est un thème qui, justement, colle à ce film très beau.
Mais Gran Torino, si on parlait du coup des derniers films, je trouve que Gran Torino est le film de la synthèse. On retrouve tous ses rôles de Dirty Harry, en passant par les Léon, etc. On retrouve aussi ses propres films, comme Le Maître de Guerre aussi. on retrouve tout cet imaginaire-là au sein d'un propre film et au sein aussi de la modernité. Il y a aussi un jeune acteur qu'on ne connaît pas aussi dans Gran Torino, donc il donne aussi sa chance à de nouvelles générations. Et c'est un film qui est très très beau, qui joue très bien sur son image.
Humaniste.
Et qui, ouais, humaniste et qui sonne un peu comme un testament finalement. Et c'est à partir de là, je trouve qu'il devient de plus en plus sombre, de plus en plus noir, de plus en plus lié à la mort, au crépuscule.
Bah, il fait une victoire juste après.
Oui, c'est je parle des derniers vraiment là, tu vois, Au-delà, J.E. Edgar, même le dernier, etc. Gran Torino se termine par la mort de Clint Eastwood quand même.
Oui, avec les bras en croix. Voilà, on s'est dit, pas un suicide, mais une mort. Voilà, il tourne peut-être une page, la fin d'un cycle. Voilà. Peut-être c'est sa fin en tant qu'acteur. On s'est rendu compte après, non, il y avait encore.
Au niveau de la photo de Dom Stern, elle devient de plus en plus noire au fil des épisodes, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Et ça devient de plus en plus crépusculaire. On sent qu'il devient hanté par la mort. D'ailleurs, même Mystic River, qui est un peu avant aussi, il parle que de ça aussi. Hein.
Ah bah oui,
du poids des années, du poids de la mort, des tabous.
La mort d'un enfant, d'une adolescente, qui va être un peu le leitmotiv et le début du film.
Et tout comme Jersey Boys, c'est aussi la mort d'une époque, quoi. C'est aussi la mort d'un groupe de garçons, quoi, au fond. C'est
et il y a la mort d'une jeune fille aussi.
Oui, mais dès le début du film, ça commence par... La jeune fille est un pivot, mais qui va faire exploser justement le petit groupe, la communauté. Justement, Tim Robbins et Sean Penn vont s'entre des chats à cause de cette question-là, justement.
Puis il y a aussi l'échange.
L'échange aussi.
Qui tourne autour de la disparition d'un enfant. C'est peut-être un de ces films. C'est un film, on va pas dire noir de par l'éclairage, de par l'image, parce que ça se passe en Californie en 1928, donc il fait très chaud, il y a une photographie assez lumineuse, mais c'est peut-être son film le plus morbide, j'ai envie de dire.
Même Million Dollar Baby aussi, c'est aussi la perte d'un enfant, parce qu'il y a un rapport paternel qui joue avec aussi Hilary Swank. Il y a ça aussi chez Eastwood, la perte de l'enfance, la perte de l'innocence, et on sent pour le rapprocher aussi de Spielberg, par rapport au thème de l'enfance, non ?
Oui, on va dire que Eastwood n'a pas souffert d'un divorce, du divorce de ses parents. Le thème du divorce n'est pas omniprésent dans tes films, contrairement à Spielberg.
Disons que Spielberg, c'est l'enfant perdu, et là, c'est la perte de l'enfant, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est plus du côté adulte, on va dire, que du côté de l'enfant. Voilà. Mais c'est peut-être pas un hasard si les deux, quand même, sont assez liés et sont dans une forme de classicisme.
D'accord. Alors toi, s'il y a un film de Eastwood que tu retiendrais durant ces...
ce serait vraiment Gran Torino. Et Mystic River sûrement après, qui est un polar aussi magistral, porté par des acteurs, voilà, Sean Penn. Je suis pas un fan de Sean Penn, mais dans celui-là.
T'es pas fan de Sean Penn ?
Non, je suis pas très fan. J'ai un peu évolué sur la question en lui reconnaissant. Parce qu'il m'énerve, c'est le côté en dehors en fait des studios qui m'énerve Sean Penn, le côté engagement politique.
Ah oui, non mais il faut que tu fasses attention parce que dans ce cas-là, t'aimes pas John Wayne, on déteste John Wayne, on déteste Christian Clavier, on déteste Clint Eastwood.
Oui, mais dans la différence, c'est que Sean Penn est vraiment à gauche et je trouve que c'est vraiment pour donner bonne conscience, etc. Contrairement à des mecs comme Eastwood, justement, qui ont le courage d'affirmer leur conviction, même si je suis pas d'accord avec eux, mais qui ont une forme de courage. Je trouve que chez Sean Penn, c'est un peu de l'arrivisme. C'est ça que je lui reprocherais. Ouais, mais bon, c'est un autre débat. Mais là-dedans, la performance qu'il est, justement, quand il apprend la mort de sa fille, il paraît, Eastwood l'a raconté, et il a fait ça en plusieurs prises, donc je crois qu'il y a une dizaine de prises au total, et à chaque fois, il hurlait, enfin son cri, quand il apprend la mort de sa fille, et à chaque fois, entre les prises, il avait en fait un masque à gaz avec des bonbons à air pour respirer, tellement qu'il se donnait à fond, quoi. Donc en ça, voilà, c'est un très grand aussi directeur d'acteur aussi.
On en parlait avant l'émission, il fait un diptyque autour de la bataille d'Iwo Jima, donc côté américain, côté japonais, ce qui n'avait été jamais fait à l'époque. Des jeunes
acteurs aussi, pour Mémoire de nos pères.
Exactement. Et ce qui n'avait été jamais fait dans le cinéma. Donc là, on est en dehors du film manichéen. Il y a des bons et des gentils, gentils et des mauvais des deux côtés. Donc ça, c'est vraiment d'un gars qui a un côté assez réac et qui est principalement de droite. C'est vraiment assez courageux de le faire. Et dans la deuxième partie, le côté japonais de l'Iwo Jima, le film est pratiquement tourné en japonais.
Et là encore, Ken Watanabe dans le rôle principal.
Ouais, Eastwood ne parle pas japonais. Je doute fort qu'il connaisse quelques notions de japonais. Mais là encore, moi, j'ai pas vu le film depuis un certain temps, mais j'en garde un souvenir assez intact. Et j'ai souvenir d'une direction d'acteurs extraordinaire avec des acteurs japonais que je n'ai pas revus par suite dans certains films, mais qui jouent extrêmement bien. Qui ne jouent pas à la japonaise, qui ont un jeu assez américain, mais qui sont très bien dirigés. Et là, t'as envie de dire, hein, le gars, il a presque 80 ans, il arrive à faire ça. C'est quand même, c'est la marque des grands.
Même à livrer une performance extraordinaire chez DiCaprio dans J.E. Edgar. Le vrai pivot de J.E. Edgar, c'est DiCaprio.
Bah oui, ça c'est clair.
Et la performance qu'il fait à l'intérieur, justement, malheureusement pas récompensée aux Oscars, puisqu'il n'a même pas été nominé, donc contrairement à Loup de Wall Street, alors qu'il méritait franchement un Oscar.
Et puis bon, Edgar, c'est aussi un personnage controversé à la Eastwood, même un peu plus grave. Parce qu'il a
Mais il le prend à l'envers, justement, le sujet. C'est pas un film sur les manigances, les manipulations. Oui. C'est un film sur une histoire d'amour entre deux hommes.
Voilà, exactement. Et c'est ce qui a justement déplu à beaucoup de personnes qui ont vu encore l'ancien réa qu'on avait taxé de fasciste à l'époque des d'Ortiari.
Nazi, ouais.
Et qui là finalement essaie de montrer la bonne part, le petit côté sentimental, le côté humain d'une personne contestée, bizarroïde et mauvaise. On peut dire ce qu'on veut sur Hoover, il a quand même les mains sales, il a sûrement du sang sur les mains, il a plusieurs casseroles, il a plusieurs dossiers qu'on ne découvrira jamais sur lui. Mais voilà, tout le monde a cette petite part humaine, et quand on raconte l'histoire d'amour entre deux personnes horribles, voilà, c'est l'amour est universel.
Oui, même,
et ça, c'est plutôt
bref. Ou même un monde parfait, c'est un amour entre un gangster et un petit enfant, et ça marche parfaitement. Ou même Million Dollar Baby, c'est aussi une histoire d'amour un peu atypique entre un vieil homme entraîneur et une jeune femme qui va mourir. Enfin, c'est toujours assez atypique, il ose faire des choses que personne ne fait. Et il y a aussi un film que j'aimerais citer, mais qui est un tout petit peu avant.
Tu avais déjà cité Un monde parfait qui était avant.
Oui, mais dans une parenthèse, l'un des préférés, moi, c'est Space Cowboy. C'est l'un de mes préférés dans les 5 préférés d'Eastwood. Je le trouve génial, alors qu'il n'a rien à voir avec les films d'Eastwood.
Avec Donald Sutherland, Dominique Jones.
Voilà, c'est génial. Voilà. Moi, j'adore ce film.
Voilà, donc c'est tout sur Clint Eastwood. On vous dit à la semaine prochaine avec un programme qu'on va essayer de bien charger pour la dernière émission de l'année.
Il faut essayer de faire le Terry Gilliam quand même. Si ce n'est pas bon, il faut quand même aussi un autre auteur après Clint Eastwood, ce serait bien.
Très bien. À la semaine prochaine, au revoir.